Vous aimez la littérature et le monde du livre? Ne manquez pas Épilogue pour découvrir chaque semaine des livres d'ici et d'ailleurs. Entrevues avec des écrivains, critiques de romans, de poésie, d'essais, de BD et actualités littéraires sont au menu de cette émission qui propose de tout aux oreilles du lecteur et de la lectrice en vous. Épilogue, le dimanche midi, rediffusion mardi 10h sur les ondes de CKIA FM.
Depuis plus de 27 ans, Profil est la référence en rock progressif. Découvertes musicales, entrevues, spectacles et plus. Soyez à l'écoute tous les dimanches à 20h au 88.3 FM ou sur profilprog.com.
Musique sans frontières, c'est du blues, du rock, du country américain, ainsi que des musiques variées.
Musique sans frontières avec Michel Giroux, c'est tous les samedis à 19h sur les ondes de CKIA FM 88.3, la radio urbaine à Québec.
Bonjour Québec, ici Jimmy Lajoie-Boucher pour CKIA 88.3 et voici votre bulletin d'information. Toutes et tous sont invités à la 8e édition du marché volumique le 6 décembre prochain de 17h à 21h dans l'atrium de l'édifice La Fabrique. Ce rendez-vous annuel festif est organisé par la communauté étudiante finissante des baccalauréats de l'École de design de la Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design de l'Université Laval. L'événement permettra au grand public de se procurer une vaste sélection d'objets adaptés à tous les budgets, parfaits comme cadeau de Noël, tout en soutenant le talent et la relève québécoise en design. L'activité contribue aussi au financement de l'événement Première Expo qui clôturera au printemps le parcours de ces jeunes talents. La Ville de Québec annonce aujourd'hui l'adoption de sa première vision en matière d'itinérance. Proposant des stratégies durables et concertées, la vision permet à la Ville de préciser son rôle et d'encadrer ses actions pour les prochaines années afin de renforcer le filet social. Ce projet, à terme, devrait permettre d'offrir des milieux de vie diversifiés, inclusifs et sécuritaires à la population et de contribuer à atteindre l'objectif ambitieux pour mettre fin à l'itinérance. Jackie Smith, chef de Transition Québec, réagit à la sortie de la ministre Guilbeault qui affirme que l'échéancier de 6 mois du mandat confié à la Caisse de dépôt et placement du Québec Infrastructure afin de trouver un projet de transport collectif pour la Ville de Québec n'est pas encore commencé. Madame Smith considère que la ministre Guilbeault agit de mauvaise foi dans le dossier du tramway. Elle considère ses ingérences dans ce dossier comme étant irresponsables et inappropriées en mettant le projet sur pause ou en jouant avec la durée de ce délai de 6 mois. Le Centre Jacques-Cartier, dont la mission principale est de venir en aide aux jeunes de 16 à 35 ans qui ne voient pas leur projet de vie se réaliser dans le cadre scolaire traditionnel, tenait un 5 à 7 et une assemblée générale hier pour inaugurer leurs nouveaux locaux. On écoute Edith Vallière, coordonnatrice générale du Centre, à propos de l'aboutissement de ce projet.
Bien, c'est l'aboutissement, finalement, d'un projet qui a débuté en 2019, mais qui vient d'aboutir pour toutes sortes de raisons, dont la pandémie. On a vécu également quelques dégâts d'eau. Donc, ce soir, bien, pour nous, c'est une grande réalisation parce que c'est un projet qui est voulu par l'équipe, par les jeunes, qui permet justement d'avoir des locaux plus fonctionnels, plus adaptés aux besoins d'aujourd'hui. Alors, on est très fiers de pouvoir justement souligner le départ finalement de nouveaux locaux, je dirais que le centre continue avec sa même mission, mais dans des espaces beaucoup plus adaptés.
C'était votre bulletin d'information sur CKIA 88.3, rendu possible grâce à l'initiative de journalisme local.
Toute simplicité.
Vers la fin de mai 1845, j'ai emprunté une hache et je suis descendu dans les bois près de l'étang Walden, non loin de l'endroit où j'avais prévu de construire ma maison. Puis, j'ai entrepris de couper quelques grands pins blancs, encore jeunes et droits, comme des flèches, pour me procurer du bois de construction. Il est difficile de se lancer sans commencer par emprunter. Mais peut-être est-ce là le processus le plus généreux qui soit, par lequel vous offrez à vos frères humains la possibilité de jouer un rôle dans votre entreprise. En me la confiant, le propriétaire de la hache me fit savoir qu'il y tenait comme à la prunelle de ses yeux, et je la lui rendis plus affûtée qu'il ne me l'avait prêtée. L'endroit où je travaillais est un joli flanc de colline boisé de pins, entre les troncs desquels j'apercevais l'étang, et il y avait aussi une petite clairière où poussaient de tout jeunes rejetons de pins et de noyers. La glace de l'étang n'avait pas encore fondu partout. Elle était sombre et comme saturée d'eau. Il y eut quelques légères chutes de neige durant le temps où je travaillais là, mais le plus souvent, lorsque j'émergeais des bois pour déboucher sur la voie de chemin de fer, alors que je rentrais chez moi, son talus de sable jaune luisait chaudement et s'étirant vers l'horizon dans l'atmosphère brumeuse, et les rails brillaient sous le soleil du printemps. J'entendais le chant des alouettes, des pee-wees et autres oiseaux déjà sur place pour commencer une nouvelle année avec nous. Ce furent de belles journées de printemps au cours desquelles l'hiver du mécontentement des hommes dégelait aussi assidûment que dégelait la terre, et la vie sortit de son sommeil en s'étirant doucement. Un jour, alors que la tête de ma hache s'était détachée et que j'avais coupé puis enfoncé à coups de pierre une cale en jeune noyer avant de plonger le tout dans un trou d'eau pour faire gonfler de bois, je vis une couleuvre filer et se mettre à l'eau puis rester immobile dans le fond, apparemment sans aucune gêne. Tout le temps que je restais sur place, soit un peu plus d'un quart d'heure, peut-être n'avait-elle pas encore totalement émergé de sa torpeur hivernale. Il me vint l'esprit que, pour une raison semblable, l'homme demeurait en son actuelle condition vile et primitive, mais que s'il pouvait sentir montant à lui l'influence de l'élan du printemps, il s'élèverait nécessairement vers une vie plus haute et plus éthérée. J'avais déjà vu des couleuvres sur mon chemin par des matins de givre, avec des sections de leur corps encore engourdies et raides, attendant que le soleil les dégèle. Le 1er avril, il plut, et l'eau fit fondre la glace au cours de la matinée, très embrumée. J'entendis une oie batifoler sur l'eau en caquetant, comme si elle eût été perdue, ou bien comme s'il eût été l'esprit même du brouillard.
Les anciens racontent qu'autrefois les Indiens avaient tenu là un powwow, sur la montagne dressée haut dans les cieux, d'une hauteur pareille à la profondeur de l'étang qui aujourd'hui s'enfonce loin dans la terre. La montagne trembla et soudain s'effondra. Seule une vieille squaw nommée Walden put survivre, et c'est elle qui donna son nom à l'étang. Walden. Walden est un parfait miroir de la forêt. Rien d'aussi beau, d'aussi pur. Rien n'est aussi vaste qu'un lac à la surface de la terre. L'eau baigne la rive comme elle le faisait il y a 1000 ans. C'est l'œil de la terre où le promeneur, en y plongeant le sien, sonde la profondeur de sa propre nature.
Thank you.
bois. Parce que je voulais vivre. Vivre suivant mûre réflexion. N'affronter que des actes essentiels de la vie. Et voir si je ne pourrais apprendre ce qu'elle avait enseigné. Afin de ne pas découvrir, à l'heure de ma mort, que je n'avais pas vécu. Je ne voulais pas non plus apprendre à me résigner. Ce qu'il me fallait, c'était vivre intensément. Je gagnais les bois parce que je voulais vivre profondément. Profondément.
Alors, bienvenue en toute simplicité. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'invité. On va faire surtout un suivi là, de la COP28, là, qui est le gros événement. Puis aussi, on va parler de... on va poursuivre notre série sur la marche et les philosophes. Avant de commencer, je fais aussi un petit retour sur notre événement d'hier qui a eu lieu au Centre Frédéric Bach. On avait un cercle de discussion qui portait sur le cohabitat de Neuville et les modes de vie alternatifs, les cohabitats. On était une trentaine de personnes. On a eu des beaux échanges. On voit qu'il y a il y a un air d'aller là, pour ces genres de projets-là qui sont mieux adaptés à notre réalité d'occidentaux qui ont désappris là, à vivre en communauté. Alors, on nous expliquait qu'il y a eu différents mouvements là, dans les années 60, là, les hippies qui retournaient vivre en communauté, mais ça a souvent, la plupart du temps, été des échecs parce que le défi là-dedans, à l'époque, on ne réalisait pas, c'est de réapprendre à vivre en communauté, en groupe. Et il y a beaucoup plus de maturité dans les nouveaux projets de cohabitat. Puis c'était un bel exemple hier. Les gens là, savent qu'il y a des défis. Il faut se préparer, il faut s'organiser en conséquence. En tout cas, c'était très intéressant. Et entre autres, bien... Je fais aussi un petit clin d'œil de l'extrait de Thoreau que je lisais au début, qui parlait de la hache qu'il avait empruntée, qui devenait une opportunité pour avoir des gens qui participent à votre projet. Puis c'est un peu aussi les cohabitats, le défi pour beaucoup ces projets-là, c'est le financement. Comment faire pour financer ce genre de projet-là? Puis le financement... Bien, on le voit souvent comme un écueil important. Puis ce que Thoreau nous dit, c'est qu'il faut voir ça d'un autre regard. C'est que ça peut être une opportunité pour aller chercher des partenaires. Puis c'est ce qu'ils nous disaient, eux autres, les gens de Cohabitat Neuville. Entre autres, ils ont pour ce genre de projet-là, il faut avoir la municipalité avec nous. Puis ils ont créé des liens avec la municipalité, puis même... que des gens à l'université qui sont amis de leur projet. Alors, c'était très intéressant, en tout cas. Puis voilà, sur notre activité d'hier. Maintenant, pour la revue de presse, les articles sur la COP 28. D'abord, on en parle beaucoup, c'est dans l'actualité, la réunion des pays du monde, c'est débuté, c'est cette semaine, je pense que c'était jeudi. Et dans le devoir, ben là, on parle, il y a comme un gros conflit d'intérêts. dans le Devoir de mardi, article qui dit « Le président de la COP accusé d'avoir voulu conclure des marchés dans les énergies fossiles ». C'est des allégations de la BBC qui s'appuient sur des documents recueillis par des journalistes du Center for Climate Reporting. Le président de la COP 28, c'est un article de l'agence France Presse dans Le Devoir de mardi. Le président de la COP 28 sur le climat, Sultan Al-Jaber, qui est aussi le patron d'une compagnie pétrolière, a voulu mettre à profit son rôle à la COP pour conclure des marchés dans les énergies fossiles, a affirmé lundi la BBC. Les documents évoqués dans l'article de la BBC sont inexacts et n'ont pas été utilisés par la COP 28 lors de réunions, a rétorqué un porte-parole de la COP 28 qui se déroulera à partir de jeudi et jusqu'au 12 décembre à Dubaï. Il est extrêmement décevant que la BBC utilise des documents non vérifiés, a ajouté le porte-parole. D'un autre côté, on a le secrétaire de l'ONU, secrétaire général de l'ONU, « Je ne peux pas croire que ce soit vrai », a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, interrogé par les journalistes. La BBC s'appuie pour son enquête sur des documents recueillis par des journalistes du Center for Climate Reporting. Les documents dont ce centre assure avoir vérifié l'authenticité ont été obtenus par l'entremise d'un lanceur d'alerte resté anonyme de peur de représailles, précise la CCR. Il s'agit d'une compilation de 150 pages de briefing préparées par l'équipe de la COP 28 pour des rencontres avec Sultan Al-Jaber entre juillet et octobre 2023. Alors, c'est sûr que ça porte à questionnement d'avoir un président de compagnie importante, énorme, là, à Dubaï, qui est président de la COP. On peut se poser des questions. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans l'actualité. Dans aussi le Devoir de mercredi, Alexandre Shields a eu une entrevue avec Catherine McKenna, qui est l'ancienne ministre de l'Environnement du gouvernement libéral. L'ex-ministre fédéral de l'Environnement dénonce l'inaction climatique de l'industrie et presse Ottawa d'imposer un plafond d'émissions de GES. L'ancienne ministre fédérale de l'Environnement, Catherine McKenna, dénonce sans détour l'inaction climatique de l'industrie des énergies fossiles et sa volonté de bloquer les politiques de lutte contre les dérèglements du climat. Dans une entrevue accordée au Devoir, elle presse aussi le gouvernement Trudeau d'accélérer la mise en œuvre des engagements essentiels pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, malgré l'opposition de certaines provinces. Quelques semaines après l'élection des libéraux en 2015, Catherine McKenna était à Paris en tant que ministre canadienne de l'Environnement pour l'adoption de l'accord le plus ambitieux de l'histoire. 8 ans plus tard, elle déplore toutefois le fait que nous sommes encore très loin des cibles fixées dans le cadre de cette entente internationale. Une bonne partie des retards qui menacent aujourd'hui la survie de l'humanité est imputable au blocage systématique de l'industrie des énergies fossiles qui fait, selon elle, tout en son pouvoir pour ralentir la transition énergétique essentielle pour éviter le naufrage du climat. Et le Canada est aux premières loges de cette bataille contre les constats pourtant incontestables de la science. Au Canada, ces entreprises disent qu'elles travaillent en faveur de la carboneutralité, mais elles n'ont rien fait qui soit cohérent avec cet objectif. Elles parlent de carboneutralité en 2050, mais elles ne veulent rien faire actuellement, comme investir dans les énergies renouvelables et réduire leurs émissions. Et elles font du lobbying contre l'action climatique, souligne-t-elle dans le cadre d'un entretien accordé avant son départ pour la Conférence climatique des Nations unies de la COP 28. Mme McKenna, qui dirige aujourd'hui la firme Climate and Nature Solution, se souvient d'avoir fait face aux fins de non-recevoir de l'industrie lorsqu'elle était ministre du gouvernement Trudeau. Plusieurs personnes ont tenté de travailler avec le secteur pétrolier et gazier. Je l'ai fait moi-même lorsque j'étais ministre. J'ai eu plusieurs rencontres pour tenter de trouver des solutions, mais chaque fois, ils se sont battus. Chaque fois, elles critiquent du même coup les alliés naturels de l'industrie que sont l'Alberta et la Saskatchewan, deux provinces qui s'opposent aux principales mesures climatiques du gouvernement fédéral. Elles combattent chaque politique qui nous permettrait de réduire les émissions et de faire croître une économie propre, ce qui est honnêtement un problème pour le Canada, qui doit travailler fort pour attirer les investissements en énergie propre. Pendant ce temps, les profits de l'industrie ont continué de croître pour atteindre des niveaux records en 2022. Les Canadiens devraient être furieux. Les entreprises font des profits faramineux et au lieu de les investir dans les énergies propres, elles redonnent à leurs investisseurs, dont plusieurs ne sont pas au Canada. Mais puisqu'elles exploitent des ressources canadiennes, cet argent devrait aider le Canada à se sortir du pétrole et du gaz le plus rapidement possible. Selon des données publiées la semaine dernière par l'Agence internationale de l'énergie, le secteur pétrolier et gazier consacre actuellement à peine 2,5 % de ses investissements aux énergies renouvelables. Or, la transition doit s'accélérer selon les Nations unies, qui estiment qu'il faut au moins tripler la production d'énergie renouvelable d'ici 2030, un objectif auquel souscrit Ottawa. L'industrie des énergies fossiles, notamment au Canada, mise néanmoins sur une croissance de la production au cours des prochaines années, tout en estimant pouvoir réduire ses émissions de gaz à effet de serre grâce au développement de la technologie de capture et de stockage du carbone. Mais selon Catherine McKenna, il s'agit d'une distraction qui sera financée en bonne partie par des fonds publics. Le but des entreprises est de faire le plus d'argent possible et de faire payer les Canadiens pour leur pollution, laisse-t-elle tomber. Et l'industrie refuse d'admettre qu'on ne peut pas développer la capture et le stockage à la mesure de ce qui serait nécessaire et à des coûts raisonnables à court terme. Ce n'est pas cohérent. Veulent-ils faire partie de la solution ou du problème? Pour le moment, ils font partie du problème. Alors, une entrevue, Mme McKenna, l'ancienne ministre de l'Environnement du Canada. Puis, dans le Devoir, aujourd'hui, on a un suivi sur cette entrevue-là. Alors, entre cynisme, c'est l'éditorial de Marie-André Chouinard dans le Devoir d'aujourd'hui. Le COP 28, le show de boucan. Entre cynisme et espoir déçu, où logez-vous face à la grande messe internationale d'environnement qui se tient aux Émirats arabes unis, septième puissance pétrolière du monde? Les dernières COP se sont jouées dans un contexte d'urgence environnementale toujours plus criant, mais elles ont accouché d'engagements trop timides pour apporter les changements réclamés à grands cris pour la planète, dont la détérioration est de plus en plus manifeste. Plus on se rapproche du point de non-retour environnemental, prédit le GIEC, plus les actions politiques robustes deviennent indispensables. Que doit-on espérer de ce grand show de boucan? Point d'interrogation. Quand le président de la COP est aussi dirigeant d'une des plus grandes entreprises pétrolières au monde, on est en droit de lever le sourcil. C'est ce que le monde entier fait depuis que c'est le sultan Al-Jaber, PDG de Abu Dhabi National Oil Company, qui devra encourager les 196 délégations participantes à la COP 28 à multiplier les efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Bref, c'est pas trop encourageant. Là, elle commente aussi l'entrevue avec Mme McKenna, les confidences d'une ex-ministre de l'Environnement sur ses efforts déployés en vain pour tenter de trouver des solutions avec l'industrie des énergies fossiles sont pour le moins intéressantes. Elle tombe à point nommé. Mme McKenna, qui se trouve à Dubaï ces jours-ci comme dirigeante de la firme Climate and Nature Solutions, se souvient des difficultés éprouvées, notamment avec l'Alberta et la Saskatchewan, qui aujourd'hui encore se dressent sur la route de Justin Trudeau. Le premier ministre de Saskatchewan a justement fait un autre pied de nez à Ottawa jeudi en annonçant que les personnes se chauffant à l'électricité seraient exemptées en janvier de la taxe du carbone. La Saskatchewan s'était objectée à la décision du gouvernement Trudeau fin octobre de suspendre la tarification carbone sur le mazout utilisé pour le chauffage résidentiel, une décision qui ne vient pas redorer le bilan environnemental de M. Trudeau. Bref, ça va pas trop bien de ce côté-là. Dans d'autres choses que j'ai vues, j'ai suivi une série à la radio. C'est en anglais, par exemple. Pour ceux qui sont capables d'écouter la radio en anglais, il y a une excellente série d'émissions qui est disponible en podcast, là. C'est l'émission à CBC. Le titre de l'émission, c'est IDs, I-D-E-A-S. Et c'est une série de 5 émissions. C'est des conférences, 5 conférences, les Massey Lectures, par Astra Taylor, A-S-T-R-A-T-A-Y-L-O-R. Et c'est vraiment intéressant sur... ça s'appelle « The Age of Insecurity », l'âge de l'insécurité. Elle a toute une réflexion sur qu'est-ce que c'est l'insécurité et qui fait partie de la condition humaine, puis par rapport à l'insécurité aussi, par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde, avec la COP qui nourrit l'insécurité, mais en même temps, on doit vivre avec l'insécurité. Donc, puis elle recommande, elle a des recommandations, qu'il faut se regrouper, un peu comme ce qu'on a fait hier là, pour les cohabitants. Il faut se regrouper pour diminuer le sentiment d'insécurité qui est inévitable, fait partie de la condition humaine. En tout cas, pour ceux qui s'intéressent, vous allez sur le site de CBC, puis vous écrivez IDs, I-D-E-A-S, et c'est les Age of Insecurity, Astra Taylor. Dernière chose, c'est dans le dernier Science et vie, il y a un hors-série Science et vie sur la Voie lactée. Le temps des révélations, vraiment intéressant sur les dernières découvertes sur l'astronomie. Ça me fait penser un peu à Hubert Reeves, là, qui faisait de l'astronomie et de l'écologie en même temps. Et c'est fascinant. Hubert Reeves, d'ailleurs, je l'avais vu en entrevue, quand on pense aux dimensions de l'espace. Puis là, il y a un article sur un peu la futilité de chercher la vie ailleurs, parce que la Voie lactée, le diamètre de la Voie lactée, c'est 100 000 années-lumière. Alors, nous, supposons qu'on est un petit peu en périphérie de la Voie lactée. Disons que ça prendrait, pour sortir, seulement sortir de la Voie lactée, 30 000 ou 20 000 années-lumière. Alors, on est loin. Les années-lumière, c'est le plus vite qu'on pourrait aller. Là. Puis, il n'y a rien qui nous permet d'aller à la vitesse de la lumière. Ça veut dire qu'on juste sortir de la galaxie, ça prendrait 30 000 années-lumière, ce qui est impossible. Donc, chercher de la vie à l'extérieur de la galaxie, la galaxie la plus près, c'est des millions d'années-lumière. Et l'espace, il y a des milliards de galaxies, mais... Même si on suppose peut-être qu'il y a de la vie dans les autres galaxies, c'est comme... on ne pourra jamais y aller, de toute façon. Et là, il y a un article que je trouve intéressant dans le Science et vie, qui est un article de... C'est Jean-Pierre Birbring qui écrit un livre sur ce sujet-là qui s'intitule « Seul dans l'univers ». De la diversité des mondes à l'unicité de la vie. Jean-Pierre Birbing, B-I-R-B-I-N-G. Puis il dit, la vie n'existe que sur Terre, c'est ce qu'il dit. La découverte de l'immense diversité des planètes et de leur processus de formation suggère que la Terre est le fruit d'un processus unique. Pour l'astrophysicien Jean-Pierre Birbring, qui publie le livre « Seul dans l'univers », l'émergence de la vie tient donc d'un extraordinaire concours de circonstances plutôt que du cas général. Ce qu'il explique dans l'article, c'est que la vie sur Terre, elle était possible grâce à de très, très nombreuses circonstances qui se sont produites. Et juste par exemple, si on n'avait pas la Lune, la vie sur Terre ne serait pas possible. La Lune, elle, en fin de compte, elle a été créée par une espèce de planète qui a percuté la Terre, puis de cette explosion énorme-là, on a eu la Lune. Donc, il y a un paquet de circonstances, c'est comme... lui, il prétend que c'est comme impossible qu'on refasse, que ces circonstances-là se reproduisent identiquement ailleurs. Donc, c'est peut-être un autre mythe là, qu'on poursuit. On espère qu'il y a de la vie ailleurs, mais lui, il prétend que c'est... faut pas trop espérer ça. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, c'est le dernier numéro de Science et Vie. C'est un hors-série Science et Vie sur l'astronomie, la Voie lactée. Alors, on prend une petite pause musicale. Pour retour, on va parler de la marche.
Thank you.
Alors, c'était l'Orchestre symphonique de Saint-Louis, les planètes de Holst, c'était Vénus, la planète Vénus. Alors aujourd'hui, je vais parler du philosophe Descartes et la marche. J'ai deux extraits à vous présenter. D'abord, un livre que je trouve vraiment bien pour nous aider à nous remonter un peu, qui est bien fait. L'auteur, c'est Fabrice Midal. Le titre, c'est « Tout ce qui nous empêche d'être heureux et ce qu'il faut faire, et ce qu'il faut savoir pour l'être », d'un philosophe. Et ça date de 2023. Je pense que ça a sorti en début d'année. C'est écrit un livre pour goûter à la joie d'être soi, Christine Michaud. Plusieurs bons conseils de vie. Alors, c'est ça revient, c'est comme les philosophes dans l'Antiquité, comment bien vivre. Et on en a besoin de ces propositions-là. Alors, la proposition 15, le titre, c'est « Ne vis pas en apnée, lève-toi et respire ». Alors, ça fait référence à une anecdote qui concerne le philosophe René Descartes. C'est une princesse, Élisabeth, éreintée par la vie, qui, en 1643, prend sa plume et écrit à René Descartes, alors un philosophe reconnu et sollicité par les plus grands esprits de son temps. La fille aînée de Frédéric de Bohême a 24 ans. Elle vit en exil depuis la destitution, puis la mort de son père. Elle a étudié les lettres classiques et modernes, parle six langues et voue une passion à la philosophie. Elle demande à Descartes de devenir son professeur de morale et elle l'interroge d'emblée sur les rapports entre le corps et l'âme dont Descartes affirme le dualisme. Cette question la laisse perplexe. Sa mise en pratique se heurte dans la vraie vie à des obstacles, mais elle ne demande qu'à être convaincue. Au fil des lettres, Élisabeth confie à Descartes ses souffrances. Il l'entend, lui qui a perdu sa mère à sa naissance, puis sa fille adorée, et qui doit affronter les critiques, les polémiques, les rejets. Les interrogations de la princesse, qui le considère comme son thérapeute, le médecin de son âme, l'interpelle. À vrai dire, il bute sur ces questions qui ébranlent parfois tout le socle de sa pensée. Au fil des lettres, il lui répond à cœur ouvert et entreprend en parallèle la rédaction de son traité des passions qu'il lui dédie et dans lequel il réhabilitera les émotions et révisera certains points de la théorie dualiste qu'il avait élaboré. M. Midal nous dit même que Descartes, on pense toujours que c'est le dualiste, il a rejeté, à la fin de sa vie, il a rejeté cette idée-là. Mais on est demeuré avec cette image de Descartes là, qui est inexacte dans le fait. Alors, Élisabeth est ce qu'on appellerait aujourd'hui une intellectuelle. Depuis sa plus tendre enfance, elle a appris à faire appel à la raison. Et c'est par elle qu'elle entend dominer sa tristesse et ses émotions. Descartes prend très vite le contre-pied, au point que le jour où elle lui écrit pour se plaindre d'une fièvre tenace et d'une toux qui ne la quitte pas, malgré tous les remèdes des médecins, il lui répond aussitôt « La cause la plus ordinaire de la fièvre lente est la tristesse », avant de lui conseiller de ne pas se consacrer exclusivement à la métaphysique, mais d'apprendre aussi, pour améliorer sa santé mentale, à aller se promener, à s'immerger dans la nature et à l'observer. Leur correspondance, qui se poursuit jusqu'à la mort du maître en 1649, constitue l'un des plus beaux traités pratiques sur le bonheur. Descartes y dévoile ses propres recettes. La principale règle que j'ai toujours observée en mes études est celle que je crois m'avoir le plus servi pour acquérir quelques connaissances, a été que je n'ai jamais employé que fort peu d'heures par jour aux pensées qui occupent l'imagination et fort peu d'heures par an à celle qui occupe l'entendement seul, et que j'ai donné tout le reste de mon temps au relâche des sens et au repos de l'esprit. C'est ce qui m'a fait retirer au champ. Il s'intéresse de plus en plus aux liens mystérieux entre le corps et l'esprit qu'il nomme l'âme. L'union des deux premières, le corps et l'âme, n'est pas la somme des deux premières, lui écrit-il. Il constate de manière empirique que la reconnaissance de cette union est l'occasion de guérir et d'accéder au bonheur. Prendre soin du corps permet de prendre soin de l'âme, puisque ces deux entités sont dans une unité fondamentale. Descartes se lève et marche pour raviver la vie en lui, corps et surtout esprit. Alors, ça nous fait penser à Thoreau qui marchait 4 heures par jour. Car entre-temps, vers la fin de son existence, il a repensé les relations entre ces deux entités et a presque renié ce fameux dualisme cartésien qui a marqué toute la pensée occidentale et n'a jamais été révisé. Nous continuons à diviser notre temps. Quand je suis à la salle de repos ou au spa ou chez le coiffeur dans une boutique pour m'acheter de nouveaux vêtements, je crois me consacrer exclusivement à mon physique. Mais quand je suis derrière mon bureau, je ne suis plus qu'esprit. Je néglige mon corps, ma posture. Je ne me lève pas comme Descartes pour aller au champ qui peuvent être le petit square d'à côté. Te mettre debout est un acte qui a pourtant des répercussions profondes sur ta manière de sentir, de penser, sur tes émotions. C'est aussi le signe de ton humanité. Les préhistoriens s'accordent aujourd'hui sur le fait que le développement de l'espèce humaine n'a pas commencé par le cerveau, mais par les pieds. Pour reprendre la jolie expression de l'ethnologue André Leroy-Gourhan, la position verticale a en effet permis la libération de la main et la réduction des contraintes de la voûte crânienne, laissant de la place à l'expansion du cerveau. En se mettant debout, l'être pré-humain est devenu humain. Tu le sais bien, quand tu ploies sous les critiques, sous le harcèlement et que tu te tasses sur toi-même, tu te sens rapetissé, y compris psychiquement. Mais quand tu te mets debout pour affronter ton adversaire, tu changes de posture morale, tu te redresses, tu ne renonces pas. Mets-toi tout de suite debout. Laisse cette expérience t'animer, résonner en toi. Tu te mets en mouvement, corps et esprit. Respire profondément pour réinstaurer tes échanges avec le monde. Absorbe l'oxygène et fais confiance à ton corps qui, à partir de là, va maintenir ton esprit en vie. Descartes pousse sa réflexion encore plus loin au risque de dérouter sa correspondante. C'est en usant seulement de la vie et des conversations ordinaires et en s'abstenant de méditer et d'étudier aux choses qui exercent l'imagination qu'on apprend à concevoir l'union de l'âme et du corps. J'ai quasi peur que Votre Altesse ne pense que je ne parle pas ici sérieusement, mais cela serait contraire au respect que je lui dois. Et, ultime conseil, il lui suggère le beau pour remède. Comme la santé du corps et la présence des objets agréables aident beaucoup à l'esprit pour chasser hors de soi toutes les passions qui participent de la tristesse et donner entrée à celles qui participent de la joie. Ainsi, réciproquement, lorsque l'esprit est plein de joie, cela sert beaucoup à faire que le corps se porte mieux et que les objets présents paraissent plus agréables. Elle lui répond, « Vos lettres sont un antidote à la mélancolie. » Face à tes problèmes, comme la princesse Élisabeth, tu serres les mâchoires et tu avances en apnée, mais tu finis par suffoquer. Laisse de temps en temps revenir en toi l'enthousiasme et la joie de vivre. Lève-toi et respire. Réinvestis d'autres espaces. Sors, bouge, réveille-toi. C'est déconcertant. Abandonne tes problèmes, tes soucis pour un moment et prends soin de ton corps pour apaiser ton esprit. Je ne te convie pas, tu l'auras compris, à une action anecdotique, mais à un acte profond, aussi bien physique que moral et spirituel. Je t'invite à mouvoir ton âme, ton esprit, par ton corps. La sagesse populaire le sait bien, être debout n'est pas une simple posture physique, mais un manifeste de notre dignité. Debout, Je ne suis pas couché, aplati, rampant, debout. Je redresse la tête, j'ouvre mes poumons pour respirer et pour me synchroniser avec le monde qui m'entoure. Sois cartésien, aie des promenades heureuses et des conversations réjouissantes.
Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue, l'expédition. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. Il était haut comme trois pommes et qu'il n'était qu'un tout petit bonhomme. On le poussa hors du berceau, lui mettant un baluchon sur le dos. Le bagage vide d'expérience, il posera le pied dans son existence. On n'est pas si tôt arrivé que l'on doit faire face à sa destinée. Il faut franchir ce fleuve qui est l'enfance de toutes les épreuves. Là où même sa propre famille risque de le couler par la torpille. Déjà on saura si sa coque et son bateau traverseront les époques. Ou bien s'il ramera à la dure dans une chaloupe remplie de fissures. Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue, l'expédition. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. Cette forêt parfois agitée, là où on peut chercher sa voie, on est souvent perdu au fond de soi. C'est en sortant de cette allée qu'il pourra prendre les routes pavées, ou se contenter d'une avenue précaire en dehors des sentiers battus. Prépare-toi, petit garçon.
c'était les Cowboys Fringants, l'album Expédition. Et la pièce, c'était Droit devant. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps à l'émission. Je vais vous lire un petit extrait que je probablement je reprendrai là, à la semaine prochaine. Comment marchent les philosophes, Roger Paul Droit? Roger-P-O-L, Droit, D-R-O-I-T. Descartes marche en ligne droite. Alors, lui aussi, il parle de Descartes concernant la marche. Le maître de la méthode ne passe pas généralement pour un penseur de la marche. Pourtant, dès qu'on y prête attention, il en parle à chaque moment clé. Je n'avais jamais soupçonné chez Descartes la présence ni surtout l'ampleur de la question de la marche. Qu'il ait été bon marcheur, je jugeais le fait plus que probable. Un homme du 17e siècle qui fut soldat, fit campagne en Allemagne, vécut aux Pays-Bas l'essentiel de son âge, habitant quantité de résidences diverses, savait à coup sûr ce que marcher veut dire, même s'il était plutôt de santé fragile, écrivant ou lisant plus souvent qu'il n'arpentait les chemins de terre ou les rues pavées, l'imaginer marcher était une évidence. Alors, on va poursuivre la semaine prochaine parce que l'émission est terminée. Alors, je vous rappelle le livre que j'ai lu tantôt, Fabrice Midal, l'extrait de tantôt. Tout ce qui nous empêche d'être heureux et ce qu'il faut savoir pour l'être. Et plus tôt, j'avais parlé aussi de la série que je vous recommande à CBC, de Astra Taylor, A-S-T-R-A Taylor, à l'émission Ideas. C'est une série de 5 émissions que je vous recommande vraiment. Et j'ai lu aussi un extrait du dernier Science et vie. C'était une hors-série sur la Voie lactée. Alors voilà, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine. Bonne journée, bonne semaine.
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
Le droit à la vie. Le droit à la liberté d'expression. Le droit à la non-discrimination. Le droit à l'éducation. Le droit à la vie.
Si les droits humains ne sont pas défendus, ils risquent de disparaître. Rendez-vous sur amnesty.ca pour écrire des messages de solidarité en soutien aux personnes dont les droits sont bafoués. Parce qu'écrire, ça libère.
Mondes musicaux. Venez à la rencontre d'une personnalité qui vous fera partager sa pratique artistique ou culturelle et découvrir la musique au cœur de son identité. Rendez-vous à Mondes musicaux avec Christine Borello tous les samedis à 18h sur les ondes de CKIA FM.
Coupure budgétaire, mise à pied, réduction de services, travail précaire, insécurité. Comment survivre à l'austérité?
Quel genre de société voulons-nous pour nos enfants, nos personnes âgées, les gens dans le besoin et pour nous-mêmes qui travaillons d'arrache-pied à servir le public? Des solutions existent.
Nous sommes le Syndicat canadien de la fonction publique et nous vous invitons à écouter l'émission D'un autre angle tous les vendredis à 11h sur les ondes de CKIA-FM.